C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 140 du 27 avril 2026. Au programme aujourd'hui, Jean-Philippe Boutin, le nouveau maire de Saint-Félicien, premier magistrat ouvertement gay de sa municipalité, il vient nous parler de son parcours, de l'équilibre entre son identité et son rôle public et de l'inclusion en politique municipale. Dans notre volet Culture Queer, aujourd'hui, nous discutons avec Méliane Dupuis, l'instigatrice d'Embarque-tu Queer, la toute première télé-réalité amoureuse entièrement queer produite au Québec. Le comédien Félix-Antoine Bénard nous présente la série policière et scolaire M'infiltrer dans ta vie, diffusée sur TV5. Et nous aurons les découvertes littéraires de Brian Saint-Louis.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité.
Et on s'en va à Saint-Félicien, non pas pour aller voir le zoo, bien qu'il est très beau, je l'ai vu à plusieurs reprises, mais pour aller rencontrer Jean-Philippe Boutin, qui a récemment marqué l'histoire de la politique locale en devenant maire de Saint-Félicien. Détenteur d'une maîtrise en économie et fort d'une expérience de conseiller municipal, il incarne une nouvelle génération d'élus dynamiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Monsieur le maire, bienvenue, merci d'être avec nous.
Bonjour, M. Chabot.
Alors,
merci beaucoup.
Oui, qu'est-ce qui vous a motivé à faire le saut en politique municipale et pourquoi la mairie en plus?
Oui, donc mon plaisir ou mon bonheur d'être en politique municipale a commencé d'abord en étant conseiller municipal depuis 2021, excusez-moi, pardon. Et moi, vraiment, ce qui m'avait motivé à l'époque, c'est la possibilité qu'on a d'influencer, mais surtout de réaliser des projets, des choses qui sont près des citoyens. Et cette passion que je réalisais à temps partiel. En fait, je suis maire, mais je voulais à l'époque aussi la faire à temps plein. Puis l'une des motivations principales que je vous dirais, là, la plus importante, c'est ma famille. En fait, à Saint-Félicien, vous l'avez nommé, on est situé au Lac-Saint-Jean. On a des défis de toutes sortes, entre autres avec l'exode des jeunes, avec une certaine dévitalisation de nos milieux. Puis moi, je voulais, en tant que personne, construire mon milieu pour pouvoir y vivre le plus longtemps possible, entre autres pour me permettre de prendre soin de mes parents, de ma famille. Fait que c'est aussi bête que ça, ma motivation à être élu, puis être maire. Ben l'avantage d'être maire, c'est qu'on peut partager nos orientations, puis influencer aussi nos partenaires ainsi que le conseil vers cette direction qui, moi, est une direction, bien entendu, de bienveillance.
Alors, on l'a dit, vous êtes ouvertement gay, mais vous dites que ce n'est pas au cœur de votre démarche politique. Comment avez-vous trouvé donc l'équilibre entre cette identité et puis votre rôle de maire?
Je vous dirais, il y avait une préoccupation qui m'habitait pendant la campagne électorale parce que à travers les médias, on voit souvent que lorsqu'on est homosexuel, des fois, il y a des commentaires, il y a des éléments plus négatifs qui peuvent ressortir. Puis à mon grand étonnement, durant la campagne, ça n'a jamais été un sujet. Et pour vous dire le nombre de personnes que j'ai vues sur 4 500 portes, j'en ai frappé à 3 500 à peu près. J'ai vu plus de 6 500 personnes et à aucun moment on me posait des questions sur mon orientation ou on me passait le commentaire de manière directe ou indirecte. Je veux dire, ça m'étonnait. En fait, ça n'est pas du tout été un sujet de campagne électorale ni même un facteur de démotivation à voter pour moi. Puis si ça a été le cas, ben on me l'a jamais dit, puis ben tant mieux tant qu'à moi. Puis maintenant que je suis maire, je vous dirais encore aujourd'hui, je n'ai pas encore vécu quoi que ce soit de négatif, même au contraire, c'est même plutôt le contraire que je dirais, à savoir que le fait que je sois homosexuel ouvertement gay, je veux dire, c'est connu à grandeur de la ville, mon conjoint est autant connu que moi, sinon plus, les gens nous perçoivent pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des individus à part entière, et souvent, lorsqu'on me demande de parler de la chose, c'est aussi pour servir d'exemple, parce que de temps à autre, dans les médias, dans les nouvelles, ce sont souvent des cas négatifs qu'on entend de l'homophobie, des cas d'exclusion, etc. Puis pour ma part, je viens de croiser les doigts. Jusqu'à présent, c'est plutôt l'inverse, que dans le sens qu'on peut être soi-même, aspirer à des postes publics comme être maire, comme être conseiller municipal, sans avoir une crainte d'avoir une espèce de des commentaires ou des éléments très désobligeants à notre égard. Fait que, jusqu'à présent, je me sens très chanceux, mais je n'ai pas eu à affronter cet élément plus négatif qui vient de certaines personnes qui sont homophobes ou dans ce style-là.
Alors, qu'est-ce qui explique ça? Parce que en fait, là, je vais vous dire, on se parle entre Montréal et Saint-Félicien, puis oui. Je vous dis tout de suite, je n'ai aucun jugement sur aucune région du Québec. Non, pas du tout. Mais on peut toujours s'attendre, hein, les gens disent, en région, les gens sont moins ouverts. Alors que moi, je peux vous dire qu'il y en a des commentaires homophobes envers des politiciens gays ici à Montréal. Mais il n'y en a pas eu chez vous. Alors, comment on explique ça?
Est-ce qu'il y en a eu? Peut-être qu'il y en a eu. Est-ce que je les ai vus? Probablement pas. Puis effectivement, c'est bien de le nommer parce que oui, même moi, des fois, je regardais des publications, par exemple, sur Facebook de mes collègues maires homosexuels aussi, puis je voyais ressortir des commentaires qui sont dans les respects très désobligeants. Puis effectivement, c'est important aussi de le nommer on a parfois cette perception qu'en région, c'est plus difficile de pouvoir s'épanouir, mais je vous dirais que moi, dans mon constat que j'ai autour de moi à l'heure actuelle, parce que j'ai un grand cercle d'amis qui sont aussi membres de la communauté, puis on est tout unanime sur le fait qu'on est capable de s'épanouir en région. Ouais. On est capable d'avoir des métiers d'avant-plan. Les commentaires ou les freins qu'on va avoir des fois ne sont pas à l'heure actuelle perceptifs. Fait que cette espèce d'impression de fermeture, je ne la perçoit pas à notre égard. Puis, je vous dirais que souvent, les quelques fois où j'ai entendu des éléments négatifs, c'est contre l'image de ce que pouvaient représenter les homosexuels ou quoi que ce soit, dans la grande effervescence, etc. Mais sinon, dans notre quotidien, dans la communauté, en tout cas, je parle pour Saint-Félicien et les alentours, je vous dirais, on est pleinement en mesure de s'épanouir. Je n'ai pas senti d'éléments négatifs. Fait que ça, c'est un autre élément qui surprend, mais je pense qu'aujourd'hui, on est rendu ailleurs aussi. On a une plus grande ouverture, une plus grande tolérance à cet égard-là.
J'aimerais quand même mentionner que le maire de Québec, qui n'est pas gay, Bruno Marchand, lui reçoit des commentaires homophobes. Il s'est fait traiter de tapette sur les réseaux sociaux, alors qu'il ne l'est pas. Alors, je pense que c'est une question aussi, parfois, quand les gens vous aiment plus trop, ils ont des trucs comme ça à dire. Mais bon, on verra bien. Avec l'usure du temps, j'espère que ça n'arrivera pas quand même de commentaires comme ça à votre égard, mais ça pourrait être là.
J'espère que non.
Ouais. Est-ce que c'est dire, donc, je pense que je poursuis là-dessus, est-ce que c'est dire que la politique municipale, du moins au Québec, est-ce qu'on peut dire que la politique municipale est plus inclusive qu'elle l'était avant pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre?
Je pense que oui. Je pense que, en fait, je crois beaucoup à l'intelligence collective, dans le fait que d'abord, l'individu qui fait le choix d'aller en politique, là, de mettre son visage sur une pancarte électorale, c'est déjà un grand sacrifice. C'est de s'exposer publiquement, s'exposer à la critique. Puis, honnêtement, et j'espère que ma lecture, elle est bonne, les gens, au-delà de l'orientation sexuelle ou quoi que ce soit, vont s'identifier à une personne pour sa compétence, pour la chaleur qu'elle dégage, sa proximité. Donc, aujourd'hui, d'en dire que c'est plus inclusif, je pense que oui, que tout individu qui, d'orientation quelconque, si on parle de gens homosexuels, mais aussi d'un queer, peu importe, dans la grande famille de la diversité sexuelle, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus un frein, ce que c'était peut-être autrefois. Aujourd'hui, je ne pense plus que ce soit un aussi grand frein, bien que des possibilités de recul, là, ce qu'on voit on entend de plus en plus, entre autres dans les écoles, une espèce de retour, malheureusement, à des propos homophobes avec le masculinisme, etc. Mais je dirais que non, je ne pense... En tout cas, en date d'aujourd'hui, je ne pense plus que ce soit un frein qui est majeur. Dans la tête des gens comme moi, je me rappelle à l'époque, ça me hantait un peu de dire « Ça va-tu être mis un jour dans l'espace public? Ça va-tu revenir contre moi? » Je dirais, aujourd'hui, non. Je veux dire, je me représenterai dans 4 ans comme maire. Je me contrefous de ce que les gens pourraient penser. Puis je ne pense pas que ça devienne un sujet non plus de controverse. Là.
Jean-Philippe, vous avez nommé quelque chose que je trouve important, cette remontée justement du masculinisme et de l'intolérance dans les écoles. Il y a même eu des études, je pense à celle de François Dupuy-Déry de l'UQAM pour la Fédération autonome de l'enseignement, qui démontre ça. Est-ce que vous sentez qu'en tant qu'homme public maintenant, homme élu, homme queer ou homme gay, comme est-ce que vous avez, vous ressentez une pression d'être un modèle pour ces personnes-là? qui subissent peut-être cette intolérance-là, puis de montrer non, non, regarde, ça peut bien aller.
Ben, est-ce que je subis de la pression? Non. Est-ce que je m'en fais un devoir? Oui.
C'est ça,
parce qu'il est important de montrer que l'on peut être ce qu'on est dans le contexte que l'on désire, dans l'emploi qu'on veut être. Ça, c'est hyper important. Autant pour ceux qui pourraient subir cette montée du fameux masculinisme, etc., que ceux qui sont dans le mouvement. De leur montrer, puis j'ai des amis plus jeunes qui avaient cette certaine tendance vers ce discours un peu plus d'intolérance et d'haineux. Puis à un moment donné, je leur faisais prendre conscience. J'ai dit, ouais, mais c'est parce que tu dis des choses qui... carrément peuvent me regarder, mais dis non, mais toi, c'est pas pareil. Je dis, ben, parce que moi, c'est pareil. Je veux dire. Fait que, tu sais, il s'identifie. C'est un discours qui est loin de chez nous, mais qu'il faut quand même faire attention. Puis, je pense, resensibiliser les jeunes garçons, mais surtout les jeunes dames par rapport à ce fameux discours d'ambiance-là, de faire attention à ce que ça l'implique. Parce qu'entre le lire, l'entendre sur les réseaux sociaux, puis aussi de commencer à réfléchir de cet ordre-là, ça amène à des conclusions, des résultantes qui peuvent être extrêmement problématiques, pour ne pas dire, problématiques, surtout dans le monde de l'intolérance. Puis ça, je veux dire, aujourd'hui, je ne peux pas croire qu'on soit en train de revenir vers un moins en moins de tolérance. Puis on parle de tolérance, c'est même pas le bon terme. En fait, c'est d'accepter l'autre.
Ouais.
Je ne peux pas croire qu'on parle de tolérance. En fait, c'est d'accepter l'autre comme il est, puis de le laisser vivre comme il veut.
J'aimerais vous demander si vous auriez peut-être un message pour ces jeunes personnes de nos communautés de la diversité sexuelle et de genre. Moi, j'évite les lettres parce qu'elles commencent à être un peu compliquées. Puis je veux pas oublier personne, alors je préfère aller avec cette expression-là, de la diversité sexuelle et de genre. Donc, à ces jeunes-là, vous avez un message à leur donner, surtout ceux et celles qui pensent peut-être se présenter en politique.
Bien, le message, il est simple. Allez-y. Je veux dire, il est aussi simple que ça. Allez-y, parce que c'est un emploi qui est hyper gratifiant, qui est difficile, qui est très exigeant, mais on est dans le lieu de pouvoir et de décision. Donc, c'est la meilleure place pour pouvoir influencer, faire progresser les dossiers, plutôt nos projets, les projets qui nous tiennent à cœur, les causes aussi. Donc, à ceux et celles qui hésitent, le fait d'être issu de la diversité, je veux dire, ça ne devrait jamais être un frein. D'aucune manière. En fait, ce qui est beaucoup plus important, puis ce qui est important de nommer, c'est vos valeurs, c'est vos projets, c'est vos aspirations. C'est ça qui permet aux gens de vous rejoindre, de vous suivre. Donc, oui, ça peut être une crainte, mais rassurez-vous, au-delà de ça, il y a des éléments beaucoup plus importants. Donc, mon message, je pense, le plus simple, c'est allez-y, foncez. Vous avez une valeur en tant qu'humain. Vous avez des projets. Vous souhaitez faire progresser la société. Et pour moi, ça, c'est beaucoup plus important. Puis, ce serait triste que la société, que votre communauté se prive de talents comme le vôtre sous le simple fait que vous craignez d'être ce que vous êtes réellement. Fait, allez-y, puis Dieu, de grâce, ne nous privez pas de votre talent et de votre savoir, puis faites-nous en profiter.
Bon, je sais
que ça sent un petit peu égocentrique, gardez juste pour vous.
Je sais que votre campagne n'était pas sur le fait que vous êtes une personne ouvertement gay, mais je vais quand même vous poser la question. Est-ce qu'il y aura quelque chose que vous allez faire pour souligner, je ne sais pas, vous monter le drapeau de la fierté pour la journée du 17 mai, par exemple?
Ben, moi, il est certain qu'on va le monter. Je veux dire. C'est la moindre des choses. Oui, très, très, très certainement. À chaque année, habituellement, à Saint-Félicien, on le monte. Il y a une année qu'on avait reçu une lettre d'un citoyen qui disait que c'était rétrograde de faire ça. Bref, on l'a un peu ignoré. Mais oui, non, il est certain qu'on va le souligner. Moi, même de mon côté, au niveau des communications, je vais probablement repartager les entrevues que j'ai données parce que je pense que ça peut être pas juste par rapport à moi, mais si ça peut permettre à une seule personne de se sentir mieux puis de se lancer dans l'aventure politique, bien, c'est tout le Québec qui en profite. Mais c'est sûr que, je veux dire, on ne fera pas des quartiers, on n'a pas assez d'espace de quartier à Saint-Félicien pour avoir un quartier gay, là, c'est impossible.
Il n'y aura pas un village à Saint-Félicien. On va devoir s'arrêter là-dessus, mais je vais vous dire tout de suite, vous avez ma permission et celle de Canal M de repartager cette entrevue partout où vous voulez. On sera très contents. Merci beaucoup, Monsieur le maire Jean-Philippe Boutin, maire de Saint-Félicien.
C'est un grand plaisir. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
À bientôt.
Merci.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Culture queer, un regard sur les arts et le divertissement.
On commence plus tôt aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses. On a décidé qu'on se donnait à 15 minutes. Ben, vous l'entendez rigoler. Salut Joël Prudhomme, humoriste, qui est chroniqueuse ici. On est très contents que tu sois là. Ben, on va aller tout de suite dire un petit coucou à Brian Saint-Louis à Québec. Salut Brian!
Bonjour tout le monde.
Alors, on a vraiment un beau volet aujourd'hui, des invités super le fun. Miliane Dupuis, qui est l'instigatrice d'une télé-réalité queer au Québec, la toute première Embarque-tu queer. Salut Miliane.
Bonjour, enchantée.
Et ben, vous le connaissez certainement si vous avez regardé plusieurs émissions, mais entre autres, M'infiltré en toi, il joue le rôle de Gaspard.
M'infiltré dans ta vie, c'est moins vulgaire.
Mon Dieu.
Puis il n'y a pas à dire, hein, j'ai tapé ça ce matin, je devais avoir les deux yeux en même trou. Je suis désolé, M'infiltré dans ta vie, Félix-Antoine Bénard. Bon,
oui,
ça, je commence
bonjour,
bien.
Bonjour.
Je suis désolé, c'est moi qui rougis.
Ben non, c'est tellement drôle.
Alors, c'est le grand volet culturel. Sur queer. Et aujourd'hui, ben, tu vois, je vais commencer avec Miliane, tiens, tant qu'à faire. Miliane, on te reçoit parce que tu es l'instigatrice d'un projet qui bouscule les codes de la production médiatique au Québec.
Oui, hein? Absolument, bien dit.
Tu es la créatrice d'Embarque-tu queer, la toute première télé-réalité amoureuse entièrement queer de la province. Wouhou!
Yeah!
Yes!
Bon, c'est bienvenue à l'émission.
Merci de m'accueillir et de mettre la lumière sur le projet.
Ben écoute, nous on a trouvé ça belle fun. J'ai vu ça passer sur mes réseaux sociaux. Je me dis, il faut qu'on parle de ça. Alors, après avoir entendu 4 ans, qu'est-ce qui a fait que tu as le déclic final qui disait, là, on y va, on passe à l'action. Et là, tu choisis l'autonomie en plus de ça. Là, tu ne passes pas par les grandes chaînes de télé. Pourquoi
tout ça? Hey, en fait, la question à se poser, c'est pourquoi on est en 2026 et il n'y en a toujours pas de télé-réalité queer au Québec, amoureuse, avec aussi, là, c'est un plus, mais avec un concept qui est bienveillant.
Oui.
Qui est inclusif sur tous les niveaux. Et donc là, j'ai décidé de bousculer les choses au Québec et d'en créer une. Mais là, attention, ce n'est pas tout. C'est une initiative personnelle, une mission de cœur que j'appelais. Et aujourd'hui, c'est rendu collectif. C'est un projet collectif qui réunit des bénévoles à expertise croisée aussi. C'est ça qui élève le projet. Donc, on a des personnes de l'industrie, du milieu télévisuel. Donc, production, télé-réalité scriptée, non scriptée. Il y a des personnes du milieu artistique, des gens à expertise sociale, architecturale. Donc, c'est vraiment cette mixité de profils-là qui rend ce projet à la hauteur de notre communauté, parce que ce sont des personnes queer donc de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres qui portent ce projet-là. Donc,
pas
de mieux que ça.
Vraiment chouette, wow.
Puis, Joël, tu me connais. Alors, moi, je vais être clean, là, je vais vous le dire tout de suite. Je ne suis pas un amateur de télé-réalité, mais pas du tout.
Okay.
Alors, pourquoi je devrais regarder celle-là?
Oh! Bien, non seulement c'est une première historique, mais on propose un concept qui est du jamais vu, qui est unique. Hein? Ah. C'est parti tout ça de quoi de mieux qu'un long trajet pour apprendre à connaître une personne. Est-ce que vous avez déjà fait du covoiturage, par exemple?
Oh, oui.
Hein? Parfois, bon, c'est très banal. Mais il y a d'autres fois où est-ce qu'il y a des pépites d'or. Hein? On passe d'une petite session de karaoké, de la vulnérabilité, des rires, des pleurs. Bien ça, comment est-ce qu'on peut traduire ça dans une télé-réalité? Bien, on a décidé de le faire. Alors, ça se passe en deux temps. Ça se passe et sur la route, où est-ce qu'on voit il y a des connexions profonde, authentique, avec... Bon, je vous dis, je veux pas
je
trop...
Je comprends, mais c'est une télé auto-réalité.
Exact, quel jeu de mots. Oui, exact. Le trajet est entrecoupé d'activités qui font briller la culture d'ici. Donc, la culture queer des entreprises d'ici. Et le deuxième volet se passe dans un établissement principalement, parce que qui dit télé-réalité? Évidemment, des petits rapprochements, de la tension, peut-être dans un jacuzzi. Hein? Mais oui, alors, c'est vraiment ce qu'on propose. C'est une formule qui est... Qui bouscule. Pourquoi on bouscule les paradigmes? Bien, c'est parce que c'est autant l'inclusivité qui rayonne à l'intérieur de la télé-réalité, donc les gens sur le plateau, qu'à l'écran. Quand on dit entièrement queer, ça va se passer à travers les saisons.
Ah
aussi.
Ouais.
Mm-hmm.
Hey, wow.
C'est parce que là, la télévision, moi, j'en ai fait dans ma vie.
Ah,
c'est
oui.
pas donné, ça
c'est
coûte
pas
cher.
Donné.
Comment réussissez à financer tout ça?
Ah, alors il faut y aller étape par étape. Hein? C'était un projet au début, non? Qui était un concept que j'ai fait. Moi, je me suis dit, on part ça en un an, on fait ça. Et peut-être pas. Hein? Donc, c'est une étape à la fois. En ce moment, on a l'appui de Gris Québec, de Interligne, un organisme de première ligne, Les Trois Sexes, donc un organisme de santé sexuelle. Donc, il y a vraiment cet ancrage territorial-là, sans la communauté. Un projet, ça se bâtit pas tout seul. Et là, c'est ça qu'on est allé chercher. Gala EDI, qu'on vient d'être nommé aussi comme finaliste, ça représente l'inclusion sur tous les niveaux. C'est pas un petit projet écrit sur la table. Il y a des demandes de subventions, évidemment. Moi, porteuse du projet, qui a investi dans ce beau projet,
oui.
Évidemment. Mais
t'as mis de l'argent, de la main dans ta poche, là.
Même une mise de fonds de maison, là. Mettons, je vous dis un 40 000. Oh. On n'arrive pas à grand-chose avec ça. Donc, ça prend... Vraiment, il y a des personnes, et d'ailleurs, hein, l'appel à tous, mais tu sais, c'est grâce à la communauté qui nous aide, à des boîtes de production qui nous ont écrites aussi pour de l'accompagnement. Donc, on reçoit beaucoup d'aide d'alliés qui veulent renforcer leur, leur engagement envers la communauté. Donc, des boîtes, quand je dis des boîtes de production, c'est pas, tu sais, des boîtes qui ont de l'expertise terrain, qui ont plus de 20 ans. On a ce privilège-là aussi de... c'est de choisir qu'est-ce qui est cohérent, qui est aligné avec nous. Donc, on y va pas à pas. Et oui, je vous dirais, c'est un mix de subventions, de partenariats.
Je pense que ça témoigne aussi que votre projet, puis l'idée originale, on en avait besoin, tu sais, de voir tout le monde se mobiliser comme ça autour, là, c'est la preuve que comme c'est vraiment un bon flash. Puis en plus, le huis clos de l'auto, c'est vrai qu'il y a des grosses discussions là, en auto ou en camping, c'est les deux.
Ça va changer un peu de la caméra où les gens vont se confesser, ils vont se confesser dans l'auto, c'est ça?
Exactement. Ouais. C'est vraiment quelque chose...
Dis le gars qui n'écoute pas ça.
Oui, mais tu sais, je sais pas moi où est-ce que je peux raisonner avec vous. Peut-être dans la psychologie ou scientifique. Ouais. Si je vous dis côte à côte, ben c'est vraiment, ça favorise là, le cortex préfrontal plutôt que l'amygdale. Hein? Ouais. Quand on est dans une date là, face à face, on devient un petit peu plus stressé, on juge. Oui, on scrute la personne. Alors que quand on est côte à côte, c'est plus facile pour l'ouverture émotionnelle. Donc, tout est réfléchi de A à Z. Wow. Et ça, c'est le pouvoir de la communauté.
Maintenant, si les gens veulent s'inscrire, comment ça fonctionne? Parce que j'imagine que vous allez chercher des candidats, des candidates. Mettons là, que Félix ici, Antoine Bernard,
ça... C'est excitant tout ça. Bien, on a déjà fait des événements en hein? Pitch ton ami. Ça a vraiment fonctionné. En 30 minutes, 145 personnes, sold out, on a fait ça.
Attention, pitch ton ami, hein? Mais pas en dessous du bus. Hein?
Non, on fait attention avec ça. Donc, et là, on arrive avec... Là, je peux pas trop vous dévoiler, mais il y a des grandes annonces qui arrivent. D'ailleurs, 30 mai, Ping Pong Club à Montréal. On vous a concocté un line-up de feu avec des artistes très queer et aussi des artistes qui sont incroyables pour célébrer avec nous. Embarque Queer débarque en région. Donc, on prend la route et on va faire toutes ces annonces-là. Comment, où ça se passe? C'est quoi les profils qui sont sélectionnés? Hein? Est-ce que ce sera une saison sexagénaire? Une saison millennials?
Sexygénaire.
Est-ce que
c'est
ça
pas
sera
la première fois que tu
le
dis?
polyamoureux? Ouais. Donc, il y a vraiment. On veut s'éloigner de la diversité de façade, puis on veut pas prendre des profils pour aller chercher une diversité.
Pas
donc,
des influenceurs nécessairement. On
non
veut des
plus.
Gens,
exact, des personnes qui cherchent un contexte sécuritaire inclusif pour trouver l'amour. Wow. Que le prix, c'est l'amour.
Moi, je suis convaincue, là.
Tu vas participer pour représenter notre émission.
On t'attend. N'importe quand. Suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Moi, je trouve que la partie bienveillante est importante. Mm-hmm. Dans les téléréalités, absolument. Surtout d'amour, c'est devenu plus. C'est vraiment plus devenu comme les influenceurs qui veulent avoir des abonnés. Mais là, ça a vraiment l'air d'être axé sur les gens. Je trouve ça vraiment. C'est vraiment chouette à entendre.
Tu sais, que ça soit porté par un organisme à but non lucratif aussi, je pense que ça en dit long. Des gens qui s'investissent toutes les semaines bénévolement pour porter ce projet-là.
Et je pense que Félix voulait dire quelque chose.
Ah non, moi, si t'embarques, j'embarque.
Écoute, on y va à deux, Félix, let's go.
Ben, ça peut être intéressant. Hein? Puis moi, peut-être j'embarquerai s'il y a un volet pour les vieux schnocks.
Les sexygénaires.
Les sexygénaires.
Vous ne l'avez pas vu, mais il y a eu un clin d'œil ici. Dans le
Écoute, je vais demander, qu'est-ce que t'en penses, toi, à Québec, Brian? Une télé-réalité queer, oui.
Alors moi, j'ai surtout hâte de voir si tu vas t'inscrire, bien sûr, mais oui, c'est un beau concept, puis j'ai hâte de voir ça en nombre.
Ça dépend quand
ça
est-ce qu'ils vont tourner.
Ça peut découvrir la télé-réalité, voilà.
Oui, ça dépend quand est-ce qu'ils font les tournages, parce que moi, tu sais que je suis en ondes les lundis, je peux pas être disponible.
Oh, des excuses.
Puis, si j'ai bien compris, le tournage se fait sur la route ou vous avez vraiment comme un lieu...
Exact, donc c'est en deux temps, équipe volante sur la route, puis à l'établissement principal... donc, c'est vraiment une télé-réalité qui sort du commun, mais le format de télé-réalité, c'est le format qui se rapproche le plus de la réalité. Donc, de voir des modèles qui sont positifs, nuancés, ça va faire du bien.
Vraiment.
De la représentation, de la normalisation positive.
Moi, j'ai quelques minutes, j'aimerais ça savoir qui es-tu, Méliane Dupuis? On te voit sur les réseaux sociaux. Oui.
Je suis un cupidon de synchronicité, je dirais. Oui, j'adore mettre des personnes en contact qui semblent sur la même fréquence ou qui semblent alignées sur le plan professionnel, amoureux. J'ai créé pas mal de couples, là, je dirais, comme deuxième job qui est Oui, comme deuxième job, là, je dirais que... Ouais,
à
exact.
Corée du Cœur, une agence de rencontres.
C'est ça, voilà, en personne. Donc, j'ai décidé de créer ce projet. Puis, je fais d'art des talents. Tu sais, c'est pas... J'aime m'entourer de personnes qui sont plus expérimentées que moi. Je toucherai pas à une caméra, là. Moi, je l'anime, ce show-là. Et de mettre des projets à terme, c'est ça qui me drive dans la vie. C'est pas juste une question d'ambition, mais là, je suis une personne passionnée, dévouée. Puis voilà.
On va voir ça quand?
Très queer aussi.
On va voir ça quand déjà qu'on peut visionner tout ça et sur quel
média? Vous devez nous suivre. Embarque-tu queer, hein? C'est comme Ricardo. Tout le monde connaît Ricardo, on écrit ça. Bon, ben nous, c'est pas trois syllabes, mais trois mots. Embarque-tu queer. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Il y a des annonces, des belles annonces qui arrivent. Donc, vous allez avoir tous les détails là-dessus.
Et après la pause, on va faire une rencontre intéressante, toi et moi.
Oui!
Joël, on va rencontrer Félix-Antoine Bénard, qui va nous parler de... M'infiltrer dans ta vie.
Dans ta vie, hein, très important, dans ta vie.
Si Simon Boulris m'entendait, je pense qu'il m'arracherait la tête. Et ça, c'est un beau projet, hein?
Oui, c'est un super beau projet. Ça fait tellement longtemps qu'il est terminé. En fait, on l'a tourné il y a un an et demi maintenant. Fait que de pouvoir enfin voir que ça sort, que les gens le voient et aiment ça, ben c'est vraiment plaisant.
Puis, t'as même changé ta couleur de cheveux pour
ça? Oui, j'ai changé ma couleur de cheveux. J'avais du cutex permanent pendant trois mois. J'étais complètement...
Des lunettes?
Gaspard, des lunettes,
oui. Je sais pas si tu portes des lunettes dans la vie, mais...
Non, je porte pas de lunettes dans la vie. Non, c'était vraiment... En fait, ce qui était plaisant avec ça, c'est que je me retrouvais à être Gaspard, donc mon personnage, pendant... dans la vie de tous les jours. Je sortais dans la rue, j'étais pratiquement lui. Je suis parti avec toute la garde-robe du personnage après le show. Fait que, ouais.
Wow. Moi, j'avais reçu Simon Boulris et il venait de revenir... Hey, mon Dieu, je fais des belles phrases aujourd'hui.
De Big Brother, si tu...
Non. Il venait de... Il était allé à Cannes, si je me trompe pas.
Oui, on est
tous allés à Cannes.
C'est avec ce projet-là?
Oui, c'est ça. Mais avec Cannes Série, en fait, qui est comme le festival de TV là-bas. Puis c'était vraiment plaisant. On était une méga grosse délégation. Les gens sont venus avec leur famille, papa, maman. C'était vraiment trippant. Ouais. Fait que toute la belle gang de Québécois sur le tapis rose de Cannes.
Tapis rose?
Ouais, les roses pour la TV, ouais.
Ah, wow. Ici au Québec, c'est un tapis bleu, hein, tu savais ça?
Non, je ne savais pas.
Oui, pour les couleurs du Québec, parce que je pense que tapis rouge... certaines personnes...
Les souverainistes très fâchés.
Ouais, ben, j'allais pas dire ça, mais toi, t'as pas de gêne. Les
souverainistes.
Oui. Et c'est disponible présentement. On peut l'écouter, d'ailleurs, en rafale. Ceux qui sont télévores, comme moi, j'ai pas eu le plaisir d'attendre au lendemain ou d'attendre une semaine. J'ai regardé ça dans une journée.
C'est sur Unity TV, hein? C'est ça, gratuitement.
C'est gratuit. C'est TV5 Plus que ça s'appelle.
Ah, ça a changé, oui.
J'ai menti.
Donc, ça sera après la pause, on va parler de tout ça. Merci à tout le monde, restez là.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DMChabotAuteur et sur LinkedIn, Denis trait d'union, Martin trait d'union, Chabot. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Culture queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Voilà, Culture queer qui continue hein, après cette pause. Et c'est le moment de vous parler d'une télésérie. Mon Dieu, que je suis vieux jeu hein, dans mes expressions. Une série télé.
C'est vrai que ça change tout.
Ben oui, ça change tout. Oui, alors je vous parle donc de M'infiltrer dans ta vie, qui est désormais accessible sur TV5. C'est diffusé aussi sur TV5 Uni. Je pense que c'est diffusé partout dans le monde aussi, hein, quand c'est TV5, j'imagine.
Écoute, c'est une bonne question.
On vérifiera. Mais de toute façon, c'est une série policière, scolaire. Et pour en discuter, ben, je suis content de savoir qu'on a tout le monde est là. Alors, je rappelle que Mylène Dupuis, qui est la protagoniste, c'est la personne qui s'occupe de mettre de l'avant la télé-réalité queer M'entends-tu queer?
Embarques-tu queer?
Embarques-tu. Exact.
Moi, je suis là pour garder la sécurité des titres.
Ça fait deux fois aujourd'hui.
Embarques-tu queer?
Prud'homme que vous entendez, Maurice. Et il y a aussi, à Québec, Brian Saint-Louis. Brian, là, je t'ai pas de mal prononcé, c'est bon. Alors, Brian, rebonjour.
Pour celui-là, ça va, oui.
Et donc, Félix-Antoine, donc tu joues le rôle de Gaspard, un adolescent de 16 ans, à la fois queer, intelligent, parce que ben là, des rôles intelligents, t'en fais toujours, ça, c'est pas un problème. Mais queer, intelligent, passionné de théâtre. Comment as-tu approché ce personnage?
C'est une bonne question. Je pense que c'est pas... Je l'ai pas forcément approché d'une manière différente que d'habitude. Peut-être le changement d'approche était surtout lié au fait que j'avais beaucoup plus de journées de tournage que d'habitude. J'étais vraiment très présent. Fait que, mais il y a tout un horaire lié
à ça. C'est quand même le rôle principal.
Oui, c'est ça. Puis après, non, je pense que l'approche aussi a change avec qui mettait en scène puis qui écrivait. C'est Simon Boulris qui l'a écrit, puis c'est réalisé par Éric Piccoli. Puis Éric, il est très dans le drame social, dans le réalisme social. C'est lui qui avait fait « Je voudrais qu'on m'efface » aussi.
Oui.
Une super bonne série, il faut vraiment voir. Regardez M'infiltrer aussi.
les deux.
Oui, c'est ça, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Donc, ça amène tout un traitement aussi qui est beaucoup en plan-séquence, qui nous donne une liberté aussi dans l'improvisation, qui nous laisse utiliser un slang de jeune. Fait que ça aussi, c'est... C'est vraiment le fun de pouvoir parler comme on parlait au secondaire ou... ouais, c'est ça. Fait que ça... C'est, ouais, voilà. Je réponds à ta question.
C'est une force, d'ailleurs, dans la série. Je l'ai nommée Amélienne juste avant d'entrer en onde, mais la force, je trouve, c'est de... Il y a pas... Je trouve pas que c'est infantilisant.
Non.
C'est une série jeune, dans le sens que ça se passe dans une école secondaire, mais à aucun moment j'ai senti que c'est des adultes qui essayent de parler le langage des ados, puis c'est super agile à ce niveau-là, là, vraiment.
Ouais, mais en fait, ce qui arrive, c'est que il y avait beaucoup de rôles qui étaient donnés à des non-acteurs, à des gens qui commençaient. Éric, il allait parler directement aux jeunes, tu sais. Fait que ça amène...
Ça, je savais pas ça, j'avais pas lu ça, des non-acteurs. Wow.
Ben oui. Puis dans la figuration aussi, puis dans... Fait qu'on était vraiment à l'école, là. Ça amène, on était à Laval, à l'école, puis...
Que raconte l'histoire? Sans divulgâcher, là, parce que j'ai horreur qu'on me dise avant que j'ai vu l'émission, voici comment ça se termine. Ah, non, non.
Surtout celle-là, il y a plein de punch.
Oui, il y a des punch à tous les épisodes.
Mm-hmm. Oui. Ben écoute, moi, je suis vraiment terrible à faire des synopsis, là, mais je vais essayer. Fait que là, dites-moi si je manque quelque chose. Mais donc, t'as Gaspard qui est à l'école, oui. Qui lui veut lancer sa pièce de théâtre.
Oui.
Puis là, dans son cours d'anglais, il va devenir ami avec un jeune de sa classe qui vient d'arriver en cours d'année, qui s'appelle Dave. Mm-hmm. Et il va réaliser qu'en fait, Dave, c'est un policier infiltré qui est là pour découvrir qui est à la source du trafic de drogue à l'école.
Ouais. Wow. C'est une bonne. Mais ce que tu as oublié de nous dire, c'est que je pense que quelque part, Gaspard tombe pas un petit peu amoureux ou trouve à son goût.
En fait, ce que je trouve. Oui, au début, peut-être qu'il le trouve à son goût, mais c'est quand même Anthony Thérien, donc je pense que c'est normal.
Voulez-vous un fun fact sur Anthony Thérien? J'ai fait mon secondaire avec Anthony Thérien, puis ça a été mon premier job.
Après ça, t'es viré queer.
Après ça, j'ai toujours été queer, le pauvre, mais... non, mais je suis pansexuelle, fait qu'il y avait de quoi, mais oui, Anthony, c'était rien, c'est mon premier jump, et j'écoutais la série, puis j'étais comme ça, c'est drôle.
C'est un beau garçon.
Ouais. Ben oui, c'est pas beau, ben oui. Puis c'est pas
à faire aussi. Mais oui, mais non, c'est ça, fait que je pense que c'est ça, mais ça tombe surtout dans une amitié, puis surtout une relation de petit et grand frère,
oui.
Tu sais. Puis il y a tout un arc de personnages à Dave qui est relié peut-être à la parentalité.
On n'en dira pas plus. Mais il y a quand même Gaspard avait quand même une relation avec un garçon.
Ah oui, avec Mathieu qui lui, il n'est pas encore affiché à l'école. Puis c'est ça qui est le fun en fait avec ce show-là, c'est que c'est... Tu sais, le fait que ces deux personnages-là soient queer, c'est pas un des enjeux du show, tu sais. C'est juste ils vivent leur amour comme ça.
Il n'y a pas d'homophobie dans ce show-là.
Non, il
n'y
en a
là.
Pas ouais. du tout. Puis ouais. Gaspard, il est complètement affiché et fier de l'être. Puis Mathieu, lui, il n'est pas forcément prêt, mais c'est surtout à cause de peut-être le contexte familial qu'il a, le contexte de consommation qu'il a. Donc ça dépasse même le fait de... qu'il soit gay, tu sais. Fait que c'est... Ouais,
voilà. Ouais, c'est vrai que c'est le fun d'avoir une école secondaire où, mettons, le personnage de Gaspar se fait pas intimider parce qu'il est homosexuel.
Oui.
Se fait intimider par...
Parce qu'il est nerd.
Pour d'autres affaires. Mais tu sais, encore une fois, c'est pas infantilisant. C'est vrai qu'il y en a de l'intimidation, c'est bien montré, mais c'est... Vous avez évité d'aller chercher l'intimidation homosexuelle, ça,
oui.
C'est payant, je trouve vraiment...
Ouais, vraiment, je trouve aussi... Mm-hmm. Ouais.
Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce show-là?
J'ai vraiment aimé ça. Oui, hein? J'ai vraiment aimé ça. Puis j'avais aucune attente dans le sens où je savais pas... je l'ai écouté pour l'émission de façon transparente. Puis après ça, je me suis vraiment perdue dans les épisodes. Puis j'ai fait comme... OK, c'est... On est hook, là. On est vraiment investi dans l'histoire. Comme tu as dit, là, c'est impossible d'arrêter les épisodes. Ouais. Moi aussi, je les ai clenchés. Puis c'est
il
comme...
pleuvait, ça a ben à donner.
Ben, tu sais, c'est un format court. Moi, j'adore les formats courts. Fait que ouais. C'est comme quoi, 6 épisodes, 7?
C'est 6 épisodes.
C'est 7 épisodes.
7 épisodes.
7 épisodes, ouais. C'est ça. 7 épisodes dans une trentaine de minutes. Fait que 25-30, ça s'écoute bien. Fait que c'est vraiment... non, puis j'ai trouvé ça rafraîchissant. J'ai trouvé aussi que, c'est ça, il y a certains punchs, la façon que ça a été écrit, on peut voir la plume de Boulris, mais
oui.
C'est habile. Il
ouais.
y a deux, trois fois là, que j'en ai pas vu venir une coupe, puis j'ai fait « Ah, oh, wow, OK! »
Ah oui, il nous a bien eu, le petit Vlimeux. Hein?
Et les personnages sont attachants, la grand-mère, entre autres.
Oui,
là,
oui,
que...
oui, la relation est incroyable.
Est vraiment
deux,
chouette,
oui.
Puis c'est vraiment... c'est touchant, puis la chicane, à un moment donné, il y a une chicane entre Gaspard et sa grand-mère, puis c'est...
Qui est jouée par José.
Oui. Puis très bien joué, by the way. Cette scène-là est vraiment venue me chercher, je trouve. Je trouvais ça beau, puis je trouvais que c'était... y a quelque chose dans ton jeu qui est proche de l'adolescent, mais qui n'est pas non plus caricatural de l'adolescent. Je pense que cette détresse-là qu'il a vécue avec sa grand-mère, ça a été vraiment vif, puis ça a été bien fait comme
ah,
acteur.
Ben,
félicitations.
Voyons, merci beaucoup.
J'ai vraiment aimé cette scène-là. Puis toutes les autres interactions, encore une fois, j'ai été étonnée à quel point j'ai trippé là-dessus. Pour
moi, je vais te dire, il y a un personnage... Ah, je l'ai dit, il est détestable, mais pas rien qu'un peu. Il est joué par Simon Boulris.
Oui,
oui, oui, oui.
Le policier.
Puis c'est un anticasse.
C'est vraiment pas Simon. Puis là, oui. Je me suis dit, c'était quand même intéressant de le voir. Puis t'es arrivé, il était un peu bourru, hein?
Oui.
Et comment t'as trouvé ça, jouer avec un Simon qui est...
Jouer avec aussi, l'auteur, aussi.
Avec l'auteur, d'abord.
Malheureusement, j'ai...
T'as pas de scène directement avec
scène. Ben, on s'est croisé un peu sur le plateau.
Ah, mais non, maintenant que tu le dis, c'est vrai, ce personnage-là.
Mais après, je veux pas révéler le pourquoi. Vous devrez aller le découvrir. Mais avec le personnage qui joue, c'est assez normal que Gaspard le rencontre pas.
Mmh. Oui, c'est vrai. Parce que, ben justement, il y a un personnage qui est donc un agent infiltré. Et clairement, faut qu'il y ait une certaine...
On
peut le dire sans aller trop loin. C'était-tu la première fois que tu jouais un personnage queer?
Comment tu as trouvé ça? Mais j'ai trouvé ça super plaisant. Je sais pas quoi.
Ça change pas grand-chose probablement en tant qu'acteur de jouer un jeune queer versus
un jeune hétéro. Ça revient au même. Je pense que ce qui était le fun, en fait, c'est de pouvoir... Mathieu était joué par Matthew Stevens. Puis on avait joué ensemble sur une série qui s'appelle Comme des têtes pas de poule, qui est une série jeunesse. C'est là qu'on s'est rencontrés. Fait qu'on se connaissait super bien déjà. Donc, de pouvoir jouer ces scènes-là ensemble, on était contents de pouvoir jouer ça. C'était... Ouais.
Alors, les prochains projets, parce qu'on t'a vu au théâtre, on t'a vu à partir de là, qui était au théâtre de la Licorne. Bon, pour une fois, je me trompe pas. Là, les prochains projets... T'étais aussi dans Indomptable, à TVA.
Oui.
D'autres projets dont tu peux parler?
Pour l'instant, j'ai le tournage d'un long métrage qui s'en vient. Mais ça, je peux pas en parler plus que ça, mais ça s'en vient, puis j'ai bien hâte.
Un long métrage,
oui.
Très cool. Est-ce que ça va être ton premier long métrage?
Non, j'avais fait Vampire humaniste aussi, je cherchais...
Ben oui! Ah, là, je viens de faire des liens dans ma tête.
Ben correct. Ah, mais oui, c'est ça. Fait que y a ça qui s'en vient. Sinon, là, on tourne la suite d'Indomptable en ce moment.
Ouais.
Qui va arriver.
Donc, on est chanceux de t'avoir aujourd'hui, que tu sois disponible.
Oui. Mais là, j'ai un petit congé là, de 2 semaines. Donc, je suis bien content de pouvoir relaxer, venir jaser ici. Là,
on a bien du fun. Reste avec nous. Tu restes en encore un petit peu de temps.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Culture queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Et là, on va aller rejoindre à Québec notre réel, télé-réel, non, radio-réalité, Brian Selwy. Comment ça va, Brian?
Ça va bien, vous autres?
Ça a l'air de bien aller, en tout cas. Tout
on a bien du fun. Ben oui, puis c'est vrai, quand t'es loin de même, on a toujours, on oublie de te faire intervenir, mais ne te gêne pas. Écoute, on va parler de livres avec toi. Je ne serai jamais Roy Dupuis. Ça peut s'appliquer à beaucoup d'entre nous. C'est un livre écrit par Samuel Larochelle, publié chez Québec Amérique.
Oui, dans la collection 3, je ne sais pas si vous connaissez cette collection-là, la comédienne Pascale Monpetit a fait un livre dans cette série-là là, il y a quelques mois, puis ça avait fait grand bruit. Tout le monde avait parlé de ça. Elle nous avait... C'est une série où on parle de trois moments charnières d'une vie. Donc, Pascale Monpetit, par exemple, elle nous avait parlé de l'inceste qu'elle avait subi quand elle était jeune, d'un cancer qu'elle a subi, et aussi d'une période de boulimie. C'est un livre très, très bien écrit aussi, ce livre-là est très touchant. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu. Samuel Larochelle, donc, aussi, qui écrit presque autant que Simon Boulris.
Simon est rendu à 74 livres en passant, je pense.
On dirait une blague.
Il dort jamais.
On dirait une blague.
Je fais pas de décompte des deux, mais les deux publient beaucoup. Donc, lui aussi participe à cette série-là. Et lui aussi va nous parler de trois grands moments dans sa vie. Donc, premièrement, le deuil d'une carrière de comédien. Ensuite, il va parler de son difficile début dans le milieu des communications. Il avait étudié en journaliste, ça n'a pas décollé aussi rapidement qu'il avait voulu. Et ensuite, c'est un troisième deuil, c'est les amours qui sont difficiles, de chercher un peu notre place quand on devient plus vieux, qu'on n'est toujours pas en couple. Et avec tout ça, il va réaliser que l'important, c'est que la maison, c'est là où le cœur est, un petit peu. Là. Donc, c'est ce livre, c'est les trois deuils qu'il explique dans ce livre-là. Donc, oui, des deuils qui sont importants pour lui, des deuils auxquels il y a des gens qui pourraient se rattacher puis se reconnaître parce que des gens de la communauté qui ont rêvé d'être comédien, qui ont rêvé de travailler dans le milieu des communications, que ça n'a pas été nécessairement facile, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir se reconnaître beaucoup de personnes là-dedans. C'est une œuvre très personnelle. Comme il le fait dans plusieurs livres déjà, Samuel Larochelle se livre beaucoup. Parfois, et là, il semble nous le faire avec beaucoup de vulnérabilité. C'est peut-être là, moi, le petit hic que j'ai eu de ce livre. Autant j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir lire son histoire et de voir que, justement, comme plusieurs, il a des deuils et d'apprendre à le connaître un peu plus. Je pense qu'il a l'impression qu'il se livrait avec beaucoup plus de vulnérabilité qu'il ne le fait. En vrai, mon petit moment qui accroche, c'est que, on va se dire les vraies affaires, là. Samuel Larochelle, c'est quand même quelqu'un qui est assez sûr de lui, on dirait, et ça transparaît beaucoup dans ce livre-là, où il fait au passage là, quelques petits règlements de compte avec des gens. Il y a des phrases vraiment où il présente ses réalisations. Il semble très fier, très heureux. Tant mieux pour lui. Mais c'est ça, c'est que ça, moi, ça a fait que j'ai eu moins d'empathie peut-être pour les deuils qu'il a subis par rapport à ce qu'il espérait probablement dans l'écriture de ce livre-là. Donc, des deuils et des combats dans lesquels certains se reconnaîtront, mais au final, on trouve qu'il y a quand même une belle carrière, qu'il s'en sort pas si mal que ça, et donc peut-être pas autant d'empathie que j'aurais voulu par rapport au deuil qu'il a subi dans cette série-là. Mais si vous aimez son écriture, si vous voulez apprendre à le connaître un peu plus, c'est une personne très, très présente dans le milieu, donc justement, on peut apprendre à le connaître un peu mieux dans ce livre-là. Pourquoi il ne sera jamais Roy Dupuis? Anecdote, c'est parce qu'il vient du même village que Roy Dupuis. Il est allé à la même école secondaire que Roy Dupuis.
Ah oui, avec la belle... Quand ça s'appelle dans Bordelot?
Non, Émilie Bordelot, ça c'était une fiction. C'était, les deux viennent d'Amos en Abitibi, puis là, à un moment donné, c'est que c'est ça, il dit « Ah, mais c'est ça, quand je vous dis le manque d'empathie que j'ai, c'est « Ah, je ne serai jamais comme Roy Dupuis, moi qui pourtant, je me souviens plus la phrase exactement, mais moi qui ai le même regard bleu perçant et la même chevelure. »
Il faut dire que la photo de couverture, ça ressemble quelque part un peu au look de Roy Dupuis, non?
Voilà, ben peut-être, oui. Je pense qu'il voulait se la jouer beau ténébreux sur sa couverture de livre. Il voulait voir ça en librairie.
Ah, ouais,
donc,
ouais.
C'est ça, moi j'ai quelques petites réserves quand même, là, mais ça fait partie de la collection, comme je vous disais, où on se livre et on se présente. Donc, exercice intéressant pour ceux qui veulent le découvrir.
Alors, je ne serai jamais Roy Dupuis de Samuel Larochelle. Je ferai le tome 2, moi, je ne serai jamais Roy Dupuis, puis bien d'autres aussi. C'est présenté donc à Québec Amérique. Allons-y rapidement, mais c'est un livre que j'ai lu avec beaucoup de joie.
C'est tout beau.
Archive de nos amitiés imparfaites de Benoît Jodoin chez Triptyque.
Ben justement, tantôt avec la série, on est au secondaire, on est dans les amis, on est dans l'amitié aussi, justement, dans ce livre-là. C'est un livre un peu intellectuel, mais c'est tellement beau, c'est tellement touchant. Benoît Jodoin qui retrouve des lettres qu'il a écrites à son meilleur ami quand il était au secondaire. Puis là, il va retrouver dans ce livre-là, dans ces lettres-là, ben l'être qu'il était quand il était jeune. Puis là, ça va se décliner en plein de façons, mais il va se rendre compte notamment de à quel point cette amitié-là est importante avec cet ami-là quand il était jeune. Et là, il va réanalyser, il va dire, mais mon Dieu, on avait de l'homophobie internalisée, ça paraît dans nos écrits, il y avait des choses qu'on se disait puis qu'on se disait pas en même temps, il y avait des secrets qu'on... On sent que cette relation-là était vraiment importante pour lui. C'est une relation, par contre, qu'il a un peu perdu de vue avec l'âge adulte. Et là, c'est une réflexion pour lui de se dire, j'ai voulu m'hétéronormativiser, j'ai voulu avoir une vie normale, j'ai voulu, ben, l'important, c'était la maison, c'était la carrière, c'était pas nécessairement les amis, mais il réfléchit, il dit, nos amitiés sont importantes. Et là, il va réfléchir à l'amitié queer, donc au fait que certaines personnes se disent, ben, deux hommes gays, ça peut pas être que amis, ça pense toujours à autre chose, on sait bien, c'est comme ça. Mais il va aussi s'inspirer de grands auteurs, il va reparler de littérature dans ce livre-là, puis il va dire, ben, par exemple, des gens comme Salvador Dalí, puis un de ses amis, Rimbaud et Verlaine, il y a Gandhi et Kallenbach, un homme que je connais pas, mais un homme politique sud-africain avec qui il a eu une amitié. Puis là, il va revenir littérairement sur d'autres amitiés importantes, va se rendre compte que c'est important d'entretenir nos amitiés, que les amis, c'est important dans une vie, surtout quand on vieillit. Donc, ça nous fait réfléchir à nos amis, ça nous fait réfléchir à nos vies, à ce qu'on a voulu construire, à cette normativité-là qu'on a voulu avoir, alors que les amitiés, c'est important, nous, quand on n'a pas nécessairement toujours des familles et tout et tout. Donc, un livre très touchant, très intéressant pour de vrai. On réfléchit beaucoup à ça après l'avoir terminé. Très fascinant. C'est publié chez Triptyque dans la collection Queer. Et je vais dire en passant aussi, j'ai pas lu son précédent qui est aussi paru chez Triptyque,
Oui.
Qui s'appelait Pourquoi je n'écris pas. Mais j'avais une amie qui l'avait lu et puis ça m'est revenu en retombant sur ce livre-là. Puis elle avait adoré ce livre-là. Donc vraiment un auteur à découvrir, Benoît Jodoin.
Oui, ben moi,
je vais aller
je
chercher
l'ai
le
lu, ce
premier pour le lire.
livre-là, je l'ai lu.
Oui.
Et effectivement, il parle beaucoup de pourquoi...
La pauvreté
la pauvreté
culturelle, là,
culturelle, oui. Et
Donc,
puis c'est un
des
peu...
livres avec lui m'ont réfléchi, c'est
Oui,
ça.
puis je
Donc,
pense que ça répondait un peu aussi, peut-être c'était pas prévu comme ça, mais ça répondait un peu à Jean-Philippe Plot, rue du Plessis, ma petite noirceur,
Oui.
qui parle de ce transfuge de classe, alors que lui remet un peu en question cette notion de transfuge de classe. Alors, c'est intéressant de...
On dirait que je vous entends parler, puis ça me fait penser au livre « Port d'attache ». Je me souviens plus de l'autrice, mais qui discute des relations amicales comme étant socialement, on les met de côté, puis on privatise vraiment le couple, le duo, alors qu'on gagnerait
Voilà.
socialement à mettre plus d'énergie là, dans le cercle le plus éloigné, les amis. Puis c'est, en tout cas, si vous aimez ce genre de livre-là sur les relations qui diffèrent, là, « Port d'attache », moi, c'est un des plus gros coups de cœur que j'ai lu récemment. J'ai
Il nous
malheureusement un
rappelle
blanc.
justement dans ce livre-là aussi qu'on construit plus quand on est ensemble. Donc, c'est important, la communauté, les amis. Puis justement, dans le milieu queer aussi, à quel point les amitiés, c'est important. Donc, à réfléchir sur nos amitiés dans ce livre-là.
On vient de me chuchoter à l'oreille que l'autrice de Port d'attache, c'est Catherine Gauthier.
Côté.
Côté. Andretti. M'excuse à toi, Catherine, mais j'ai vraiment aimé ta plume, j'ai vraiment aimé ce livre-là.
J'ai un petit peu de temps avant d'aller à mon coup de cœur. Les amitiés. C'est important.
Oui, les amitiés, c'est très important.
Ah, quand on est comédien, puis il paraît que quand vous faites des séries, parfois à la fin, là, quand tout le monde a fini de tournage, là, tout le monde s'en va, puis il y a comme pas une espèce de...
Ah, ben c'est un gros deuil, là.
Ouais.
On passe tellement... c'est qu'on se voit, 5 jours semaine, quasiment 15 heures par semaine, 14 heures par semaine, donc avec l'équipe, avec les autres comédiens, c'est... ouais.
Oui, puis tout un plateau, hein. Dès que tu mets les pieds sur un plateau, l'éclairage, genre la personne qui va être au costume et l'accessoiriste vont vraiment être proches en même temps que la personne aux 7 pieds. C'est vraiment,
vraiment
une belle communauté, un plateau
vraiment.
De tournage. Là.
C'est pour ça qu'on fait ça avec des beaux rap parties à la fin. Là, pour,
Est-ce que c'est des parties qui ressemblent à ceux qu'on a vus dans M'infiltrer dans ta vie?
Des parties d'ado.
un peu moins.
Mais Liane, les amitiés.
Hey, c'est important, surtout dans la communauté queer,
ah ouais.
c'est la famille choisie, mm-hmm. les amitiés, puis de prendre un moment pour les cultiver aussi, avec la vie qui va très, très rapidement, ben c'est précieux, c'est précieux. Puis c'est un petit rappel que je vous fais pour tout le monde qui nous entend en ce moment, de, ouais, de dire aux personnes qui nous entourent, on s'aime, puis on se célèbre, puis on est là, autant dans les bas que dans les positifs. Ouais, des amitiés, ça en prend des cheerleaders pour nous élever dans la vie.
Ah oui?
Ouais.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Je me peux plus.
Je me peux plus.
Je me peux plus!
Ça me fait toujours rire, ce petit segment-là. C'est les coups de cœur. Je sais pas si. Je sais que j'ai peut-être pas discuté avec tout le monde de ça. Si vous en avez, ne vous gênez pas. Moi, j'en ai un. Ça me le tente de le faire parce que il y a beaucoup de séries télévisées où il y a des personnages queer et on n'en fait pas de cas. Et je vais vous parler du retour d'Anna Brodeur. Puis d'ailleurs, j'ai déjà commencé mes démarches pour le retour de l'émission en septembre pour avoir certains des personnages. Alors, le retour d'Anna Brodeur, c'est une série de Richard Blemmer. Richard qui écrit des bijoux, on le sait. C'est sur Crave TV. C'est une comédie, mais c'est aussi une comédie dramatique. Alors, ça met en scène Julie Le Breton dans le rôle-titre, donc d'Anna Brodeur. Puis on sait l'histoire. Anna Brodeur est partie pendant 10 ans vivre en Europe avec un homme dont elle était follement amoureuse. Puis il crève et elle se rend compte que, oups, il n'y avait absolument rien pour moi. Et elle retourne un peu la falle basse au Québec et retrouve son grand ami Benoît McGuinness dans le rôle de Patrick Bernier, propriétaire de l'agence PBLD, pour bien le dire. Gay est vraiment en carence affective. Alors, c'est tellement drôle parce que je trouve que il se moque vraiment de lui-même. J'aime beaucoup les comédiens. Ont aucun, tu sais, je pense qu'il n'y a aucun
souci. Oui, beaucoup d'autodérision.
Et tout, d'ailleurs, comme Anna, c'est intéressant de voir le personnage féminin et le personnage masculin, tous les deux dans le même problème. Alors, elle repart à zéro. Et pourquoi j'en parle? J'aime beaucoup Vilaine Alexis, qui est un comédien qui a beaucoup de talent, très, très queer, très ouvertement queer. Et donc, il joue le rôle d'Alex. Et Alex, il est très queer, il est efféminé, mais il n'est pas caricatural. Moi, je me rappelle, j'ai l'âge, je me rappelais de chez Denise, et tout le monde parlait d'André Montmorency, premier personnage queer, premier personnage gay. C'était vraiment trop folle, ça nous faisait honte un peu. Je comprends que c'était comme ça à l'époque, mais moi, j'ai adoré ce que ce comédien-là a fait avec son rôle, avec ce rôle de Alex. Je ne sais pas qui d'autre l'a vu, cette série-là, là-dessus, pas encore?
Heureusement,
je
n'ai pas vu, non, mais... Non. Ma coloc l'a vu, elle a adoré ça.
Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a dit, ta coloc? Qu'est-ce qu'elle a dit, ta coloc?
Ben, elle a dit qu'elle a beaucoup aimé. Voilà, oui. J'ai pas eu une longue conversation avec elle, mais j'ai vu dans le corridor, je l'ai vu l'écouter, puis elle me dit que c'était super.
Il y a une scène où, à un moment donné, je sais plus trop comment ce qui se passe, mais il embrasse son patron. Et là, il se dit, il faudrait qu'il me mette à la porte. Je lui ai pas comme demandé s'il avait consenti. Il en a fait une blague, mais on a parlé du consentement. Puis je trouve que c'est quelque chose entre hommes dont on ne parle pas souvent.
Oui, on en parlait d'ailleurs avec Heated Rivalry.
Même chose,
comme ça,
oui.
Ça s'en vient de plus en plus commun là, de parler de consentement entre hommes. Fait que c'est toujours pertinent, ouais.
Je vous ouvre la porte, parce que quelqu'un d'autre a un autre petit coup de cœur.
Oui, moi, c'est comme un double. C'est un coup de cœur et un coup de poing. Sur le coup, ça a été un coup de poing. En fait, c'est la bande-annonce qui est sortie de Françoise,
oui.
Qui va être un film. Donc, le synopsis, c'est donc un homme hétérocis qui se fait refuser des projets. Donc, il se dit, bon, ben qu'est-ce qui pogne, c'est d'être trans, je vais être une femme trans à la place. Fait qu'il se la joue comme s'il était en transition. Sur le coup, là, je vais vous avouer, j'ai écouté la bande-annonce et toutes
oh, mon
mes
Dieu,
muscles
ça
se sont...
Ça donne pas le goût, pantoute. C'est pas une bonne bande-annonce, on va le dire.
C'est pas une bonne bande-annonce. Ceci dit, j'ai communiqué avec un de mes amis trans homme qui était dans la bande-annonce, puis j'ai fait « Hey, je t'ai vu dans la bande-annonce, puis je vais t'avouer que j'ai des réserves là, sur le synopsis, sur ce qui se passe. » J'ai été stressée, puis on en a discuté, puis finalement, on apprend que c'est Gabrielle Bouliane aussi qui a co-écrit ce film-là, ce qui est rassurant. J'ai une grande confiance pour elle, une grande autrice que j'aime beaucoup, qui est une femme trans. Donc déjà, de savoir qu'il y avait ça, le fait de savoir que les comédiens sont majoritairement des vraies personnes trans, ça aide. Et dans le fond, plus on apprend sur ce film-là, plus on comprend que peut-être bourré de maladresse, mais que l'objectif ultime, c'est vraiment d'ouvrir la porte à une clientèle qui n'aurait pas été voir un film de femmes trans, mais qui vont peut-être aller voir Louis Morissette, puis qu'ils vont peut-être apprendre, puis surtout, ça va sonner horrible, mais humaniser des femmes trans, même sexualiser des femmes trans. Il y a un personnage qui se fait désirer, puis pas de façon drôle, là, vraiment juste une femme trans qui se fait désirer. Ouais. Je pense que sur le long terme, ça peut être extrêmement payant. C'est juste que sur le coup, moi, je la trouve... C'est ça qu'on en parlait avant d'être en nombre, mais je je trouve ça beau de voir que la communauté a levé des flags, parce qu'il y avait des flags à lever. Mm-hmm. Puis ensuite de ça, plus on se renseigne là-dessus, plus on fait comme, OK, on va attendre de voir le film avant d'avoir une opinion. Mais ça, moi, je pense qu'il y a du potentiel dans ce film-là pour aller chercher vraiment un public un peu plus large, tout en ayant un objectif positif. Fait qu'à suivre.
À suivre. Il y avait un autre film que j'avais vu qui s'appelle, mon Dieu, Le Retour Justin. Oh mon Dieu.
Juste Xavier.
À l'époque, là?
Pas à l'époque, mais l'an passé.
OK, non, on parle pas de moi. OK, juste Xavier.
C'est quand même un homme trans qui joue le rôle principal. Mais, fallait être fait fort. Parce qu'il y avait c'était drôle, c'était mais en même temps, je me disais... Ben, moi,
Est-ce que tu as vu le film?
J'ai vu le film.
Oh, mon Dieu, OK.
J'ai vu le film et, tu sais, par bout, je trouvais ça drôle, mais je me disais, OK, moi, je suis un homme de ce genre-là. Mais je me disais, est-ce qu'une personne... Tu sais, avec le recul, est-ce qu'une personne trans...
Faut faire attention parce que c'est quand même...
Mais toi, est-ce que tu l'as vu aussi?
Non, j'ai vu la bande-annonce, je me suis arrêté à ça.
Mais c'est pas un film qui c'est pas mauvais du tout, là. C'est juste que parfois, il y avait des blagues... Oh boy, mais j'ai demandé à Alexis Comtois qui faisait le rôle. Il est venu à l'émission, il m'en a parlé et c'était quand même bienveillant. C'est juste que des fois, les bandes annonces, parfois, ça peut...
Ouais, il faut faire attention, c'est ça, à sur qui on tape. T'sais, c'est quand même une communauté dans les plus marginalisées, même à l'intérieur de la communauté queer. Il ne faut, faut pas capitaliser
pas mal
là-dessus.
Trop,
oui, c'est ça. Idéalement, on ne capitalise pas. Mais si le but, c'est inversement de les aider, tant mieux. Fait qu'à suivre.
Alors, moi, je vais vous annoncer qu'il y aura une autre culture queer, mais dans 2 semaines, on va le faire plus tôt, parce que l'émission tire à sa fin pour la saison 2025-2026. Je remercie donc toute l'équipe. Mathieu Tessier à la régie. Merci à tous mes invités. J'ai pas le temps de tous vous nommer. Je vous souhaite passer une bonne semaine et à la semaine prochaine.
Merci.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @dmchabotauteur, et sur LinkedIn, Denis Trait d'Union, Martin Trait d'Union Chabot.